Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Nous prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes sur le polycopier qui couvre les chapitres 1 à 5 de l'Évangile selon saint Marc au début du chapitre 5, donc à la page 30, en haut de la page. Donc nous allons aujourd'hui, je pense, terminer ce chapitre 5. Vous voyez qu'avec saint Marc, les choses vont un peu plus vite parce que beaucoup des explications ont déjà été données dans l'Évangile selon saint Matthieu. Parce qu'il y a des textes qui se recoupent également parce que l'évangile de saint Marc est le plus court des quatre évangiles. Donc nous en sommes au chapitre 5. Voyons d'abord les versets 1 à 19 que saint Thomas regroupe. Ils commencèrent de l'autre côté de la mer. Ils arrivèrent, pardon, de l'autre côté de la mer au pays des Géraséniens. Et comme ils sortaient de la barque, tout à coup vint à Jésus sortant des sépulcres un homme possédé d'un esprit impur et qui avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Il était sans cesse, jour et nuit, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant donc vu Jésus de loin, il accourut et l'adora, et poussant un grand cri, il dit: Qu'y a-t-il entre vous et moi, Jésus, fils de Dieu Très-Haut? Je vous en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Car Jésus lui disait: Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Il répondit: Mon nom est Légion, parce que nous sommes nombreux. Et il le prit avec instance de ne point les chasser du pays. Or il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le suppliaient en disant: Envoyez-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions. Jésus le leur permit aussitôt, et les esprits impurs, sortant du possédé, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils furent noyés dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les champs. Et les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent celui qui avait été tourmenté par le démon assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent effrayés. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux possédés et aux pourceaux. Et ils se mirent à prier Jésus de sortir de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été tourmenté par le démon se mit à lui demander de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus ne l'accepta pas et lui dit: Allez dans votre maison, auprès des vôtres, pardon, et annoncez-leur tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il eut pitié de vous. Il y a, me semble-t-il, plusieurs choses importantes à expliquer dans ce chapitre. Mais bon, on voit à quel point le démon est fort et violent et persécute les chrétiens. Cependant, il y a une tendance générale, au sujet de laquelle je voudrais dire deux mots, une tendance générale chez beaucoup de nos catholiques, parfois avoir un peu le démon là, il ne faut pas le voir. Monseigneur Lefebvre nous disait toujours, à chaque fois que vous avez une personne qui vient vous voir, prétextant avoir un problème direct avec le démon, une obsession, une contamination quelconque par le démon, commencez par voir s'il n'y a pas d'abord une raison naturelle. En 45 ans ou 40 ans de sacerdoce, pardon, je n'ai vu que deux fois des cas où il y avait certainement une infestation démoniaque. Dans tous les autres cas, j'en ai vu pas mal, dans tous les autres cas, c'était des déséquilibres profonds. Déséquilibre nerveux, déséquilibre organique de toutes sortes. Beaucoup de gens sont complètement déséquilibrés aujourd'hui. Ça va d'ailleurs, entre autres, avec la façon de vivre des gens modernes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le démon parfois qui travaille, mais avant de tout de suite voir le démon, il faut commencer par regarder, première étape, si ce n'est pas une raison naturelle qui provoque ces désordres. Souvent, les gens ont des problèmes de ce genre parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils sont toujours fourrés devant la télévision, parce qu'ils jouent à des jeux vidéo à longueur de journée et ça finit par leur taper sur le cerveau. Donc ça, il faut quand même faire un petit peu attention. Ensuite, Mgr de Lefebvre nous disait, dans un cas où vous pensez qu'il y a certainement une influence démoniaque, commencez par donner des remèdes simples. Il faut pas tout de suite conseiller aux gens de faire un grand exorcisme. Ça arrive régulièrement. Des gens viennent nous voir, Monsieur l'abbé, je suis possédé par le démon, est-ce que vous pouvez m'exorciser? Puis quand on interroge, on voit très bien que c'est pas un problème de démon. C'est un problème de déséquilibre. Et lorsque des gens viennent me voir en me disant, Monsieur l'abbé, j'ai besoin d'un exorcisme parce que je suis possédé par le démon, première question que je vais poser est la suivante. À quand remontent vos dernières bonnes confessions? Et souvent les gens me disent, Monsieur l'abbé, moi je ne me suis pas confessé depuis des années. Commencez par préparer une bonne confession générale et ça va déjà certainement commencer par arranger les choses. On peut aussi, nous disait Mgr Lefebvre, offrir la messe pour ces gens-là, leur conseiller d'assister à la messe de façon régulière. Regardez ici dans ce texte de Saint-Marc au chapitre 5, la seule présence de Jésus va faire fuir le démon. Eh bien notre Seigneur Jésus-Christ vient véritablement sur l'autel avec son cœur, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc commençons par ces choses-là. Je vais recommander à quelqu'un qui pense avoir une infestation démoniaque de prier davantage, de dire son chapelet, de porter la médaille miraculeuse, porter le scapulaire, d'assister à la messe tous les jours s'il le peut, de se confesser très régulièrement. Et en général, ça suffit. Bon, il peut y avoir, bien sûr, des cas particuliers où un exorcisme est nécessaire. Et avant de faire le grand exorcisme, il faut commencer par multiplier les petits exorcismes. Par exemple, conseiller à la personne qui a des problèmes de réciter par elle-même. En privé, tous les jours, le petit exorcisme de Saint-Michel, par exemple. Voyez, on ne fait pas le grand exorcisme comme ça sans une raison très grave. Encore une fois, en 40 ans de sacerdoce, je n'ai jamais fait le grand exorcisme. Avant, dans les paroisses, il y avait un grand exorciste, plus exactement dans les diocèses, il y avait un grand exorciste qu'on appelait l'exorciste du diocèse, qui était souvent un moine, âgé, consommé en sainteté. Et avant de faire pratiquer un grand exercice, il jeûnait pendant 3 jours. Hein. Le deuxième point qui me semble important, c'est à la fin de cette première partie du chapitre 5 de Saint-Marc, on voit que le possédé qui vient d'être délivré du démon, par reconnaissance, demande à pouvoir rester avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne l'accepte pas. Ça semble bizarre. On voit d'une part notre Seigneur Jésus-Christ qui va aller directement auprès de certaines personnes qui n'ont pas demandé à aller avec notre Seigneur. Par exemple, il va aller chercher Saint Matthieu, viens, suis-moi. Saint Matthieu se lève et le suit. Et ici, c'est le contraire. Cet homme qui vient d'être délivré demande à rester avec notre Seigneur. Notre Seigneur refuse. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas de vocation. Par contre, dans d'autres circonstances, on va voir que notre Seigneur Jésus-Christ appelle quelqu'un qui a une vocation et que cette personne ne veut pas venir. C'est le cas du jeune homme riche. Un jeune homme riche qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui demande, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et cette personne, et notre Seigneur de lui répondre, si vous voulez posséder la vie éternelle, gardez les commandements. Et le jeune homme lui répond, Seigneur, je fais déjà tout cela. Quoi d'autre? Et l'évangile dit, notre Seigneur le regarda et l'aima. Et il lui dit, si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez, donnez ça aux pauvres, venez, suivez-moi. Là, il y avait une vocation. Et l'évangile rajoute, le jeune homme s'éloigna tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il refuse sa vocation. Vous voyez, et là, on voit très bien dans ce chapitre 5 de Saint-Marc que ce jeune possédé qui vient d'être délivré, souhaiter avoir la vocation. Il demande à suivre notre Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ ne lui accorde pas cette grâce parce qu'il a une autre fonction sur la terre. Allez dans votre maison, auprès des vôtres, et annoncez-leur tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous. Alors voyons un petit peu le commentaire des pères. À la page 31. Le dommage, disent les pères, en haut de la page 31, le dommage qu'ils venaient d'éprouver les amène au Sauveur. Et c'est ainsi que souvent Dieu répand ses bienfaits dans les âmes, afin qu'ils les éprouvent par la perte de leurs biens temporels. Ainsi, le regret que leur inspire la perte de ces pourceaux leur fait renoncer aux bienfaits de la présence du Sauveur. C'est-à-dire, lorsque l'on perd certains biens temporels, parfois cette perte va nous amener vers Dieu. Et parfois, au contraire, cette perte va nous amener à la révolte. Et va nous éloigner de la présence du Sauveur, des bienfaits de sa présence. C'est exactement ce qui s'est passé là, malheureusement. Ils se mirent à prier Jésus, au verset 17, de sortir de leur territoire. Ils ont peur. Ils voient que tous les 2000 pourceaux se sont suicidés dans le lac, sont jetés dans le lac, alors ils ont peur. En règle générale, l'abus de biens temporels est toujours un obstacle à la sanctification. Il est très difficile, voire même presque impossible, pour quelqu'un qui a trop d'argent de rester en état de grâce. C'est trop de tentations. Il y a déjà pas mal de tentations sans argent, mais alors quand on en a beaucoup trop, tentations vont nous faire succomber très facilement. Lorsque nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, il faut commencer par laisser, si vous voulez, enlever du poids dans notre maison. J'explique toujours par une image quand je parle à mes fidèles de ces choses-là. J'ai dit, mais pour que Dieu puisse rentrer dans une maison, dans une âme, il faut quoi qu'il y ait la place dans l'âme pour le recevoir. Et souvent, nos âmes dans le monde moderne sont complètement remplies jusqu'au plafond, littéralement, de choses matérielles. Il y a tellement de choses matérielles qu'il n'y a plus de place pour notre Seigneur. Même si elle souhaite rentrer, elle ne peut pas rentrer parce que la maison est pleine. Et donc, lorsqu'on veut commencer à remettre un peu d'ordre dans notre maison, à accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de notre âme, il faut commencer par mettre des choses dehors. Pas forcément tout, le bon Dieu ne vous demande pas d'aller vivre dans une grotte, hein, comme un ermite d'Égypte, mais le bon Dieu vous demande d'arrêter d'aimer les choses de ce monde beaucoup trop. Il y a un équilibre qu'il faut garder. Alors, singe, Bède le Vénérable donne le sens mystique. Donc on est au pays des Géraséniens, dit l'évangile. Gérasa ou Gergésa, comme disent quelques-uns, signifie celui qui renvoie l'habitant ou l'étranger qui approche. Parce qu'en effet, le peuple des gentils a chassé l'ennemi de son cœur et que celui qui était éloigné s'est approché. Donc ce possédé du démon représente l'état désespéré des gentils qui n'étaient retenus ni par la loi naturelle, ni par la crainte de Dieu ou des hommes. Ils habitaient dans les tombeaux, c'est-à-dire qu'ils se plaisaient dans les œuvres mortes que sont les péchés. Et même si les gens vivent en état de péché, tant qu'il y a, je dirais, encore la loi, d'une certaine façon la loi naturelle qui est au moins en partie suivie, il y a des possibilités de remonter à la surface. Le démon travaille énormément, c'est très visible aujourd'hui, pour que les gens qui vivent dans le péché maintenant commettent des péchés contre nature. C'est-à-dire que non seulement on cherche à couper l'arbre, mais on veut maintenant enlever les racines même de l'arbre pour être sûr que l'arbre ne puisse plus jamais repousser. Parce qu'un arbre est coupé, vous voyez, eh bien, des rejetons peuvent toujours repousser. Mais quand un arbre est complètement déraciné, quand on a enlevé, arraché de terre les racines de l'arbre, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus le replanter. Parce que l'arbre, et qu'on a brûlé l'arbre, l'arbre est mort. Eh bien, c'est pour cela que dans le monde moderne, on le voit, les péchés contre nature ont envahi le monde, parce que le démon sait très bien qu'avec ses péchés contre nature, il sera presque impossible pour les gens qui sont tombés dans ces péchés contre nature, surtout les sodomites, de revenir vers le bon Dieu. Parce qu'il y a trop de travail. C'est la nature même de l'homme qui est tordue à un tel degré qu'humainement parlant, c'est presque irrécupérable. J'ai connu dans ma vie de prêtre plusieurs fois, surtout quand j'étais aux États-Unis, c'est malheureusement un vice très fréquent là-bas, en France aussi de plus en plus, j'ai connu des gens qui ont essayé de s'en sortir avec des problèmes de ce genre et qui ont eu d'énormes difficultés parce que c'est une espèce de réseau, et réseau démoniaque entre eux, et ils se surveillent entre eux pour s'empêcher de se dégager des mailles du filet. Donc il faut faire extrêmement attention à ces péchés contre nature. Souvent dans les possessions démoniaques, on le voit, le démon a commencé à posséder les âmes précisément par ses péchés contre nature. Continuons les explications données par les pères. La nuit comme le jour, ce possédé était en fureur. Il est la figure du peuple des gentils qui, dans la prospérité comme dans la fortune, ne cessait d'être asservi sous le joug des esprits mauvais. Il habitait dans les tombeaux par la corruption de ses œuvres, errait dans les montagnes par les excès de son orgueil, et se déchirait avec des pierres par les blasphèmes d'un cœur endurci par l'incrédulité. Oui. La première chose que va faire notre Seigneur Jésus-Christ auprès d'un démoniaque, c'est de remettre la foi dans son cœur. Oui. Et on le voit, nous, avec quand on s'occupe de personnes qui ont des emprises diaboliques, démoniaques, il faut leur faire répéter très souvent l'acte de foi, et surtout dans les moments de tentation. Les moments de tentation. Et justement, s'ils ont en eux la foi, cette foi va les aider à ne pas se décourager. Le démon répond: Légion est mon nom, parce que le peuple des gentils était livré à diverses sortes d'idolâtrie. Il ne faut pas oublier que dans la liste des péchés contre le premier commandement que donne le pape Saint-Pie X dans son catéchisme, qu'il a écrit en 1910, le premier sur la liste, c'est l'idolâtrie. Il donne l'idolâtrie, le sacrilège, la superstition et l'ignorance coupable des vérités de foi. Mais le premier sur la liste, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration d'un faux Dieu. Un péché extrêmement fréquent aujourd'hui. On parle souvent en sermon parce que justement c'est un péché très très fréquent. Et lorsqu'on parle d'idolâtrie, la plupart de nos fidèles, ils pensent aux autres, mais jamais à eux-mêmes. Pour eux, un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore la lune ou les étoiles ou les rochers. Et ils disent: Mais moi, j'ai jamais adoré ni la lune, ni les étoiles, ni les rochers, ni les arbres, donc je ne suis pas idolâtre. Attention! L'idolâtrie, c'est quoi? Ça consiste à avoir un faux Dieu dans son âme, à donner l'adoration qui n'est due qu'au vrai Dieu à un faux Dieu. Que fait actuellement Bergoglio avec frénésie, avec ses idoles au concile d'Amazonie, avec ses idoles des pays d'Amazonie. Eh bien, il faut faire extrêmement attention parce que le péché d'idolâtrie est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. On fait très souvent passer des créatures avant le bon Dieu. Le nombre de Le français moyen, même catholique, qui sont capables tranquillement un dimanche de manquer la messe, tout simplement pour un match de football, ou pour un film, pour une émission de télévision, ou quelque chose de ce genre. Vous voyez? Et donc, dans bien des cas, le nouveau Dieu, c'est la télévision, c'est Internet, c'est le jeu vidéo, c'est la voiture, c'est l'ordinateur, etc. Et ce n'est pas pour rien, justement, que le démon ici va se précipiter chez les pourceaux, dans les pourceaux. Pourquoi? Parce que les pourceaux sont des animaux sales, qui aiment vivre dans la boue, qui ont le corps constamment recouvert de boue. Une porcherie sent toujours très mauvais en général, à cause justement de la saleté dans laquelle les cochons en général vivent. C'est le symbole du démon. Et c'est surtout le symbole du péché impur. Pour ça qu'il est dit, les esprits impurs sortant du possédé entrèrent dans les pourceaux. C'est pas n'importe quel démon qui possédait ce pauvre homme qui vivait dans les sépulcres, dans les tombes, dans un cimetière. Ce sont les esprits impurs. Oui. Certainement, un des démons qui fait le plus de mal, il y a d'abord l'orgueil, bien sûr, mais immédiatement après, il y a l'esprit impur. Le démon d'impureté va encore une fois faire énormément de mal parce qu'il salit l'âme à un tel degré qu'il est de plus en plus difficile de nettoyer une âme qui est salie par le péché d'impureté. C'est possible avec la grâce du bon Dieu, mais pas sans utiliser un karcher spirituel très puissant. Donc, on le voit bien ici, les prêtres, les pères de l'Église parlent de ces pourceaux qui se vautrent dans le bourbier de toutes les voluptés. Hein? Donc, les démons les précipitent dans l'océan de ce monde comme dans l'abîme de la perdition, ils sont étouffés, perdent la vie. C'est-à-dire qu'on est tellement couvert de saleté venant du démon par le vice impur que ce vice impur va nous faire couler littéralement. Et donc les esprits impurs rentrent dans les pourceaux se précipitent dans la mer et ils furent noyés dans cette mer. Donc une légion, disent les pères, puisque ici c'est le mot utilisé par le démon quand on cherche à avoir le nom du démon, mon nom est légion. Les exorcistes nous disent que lorsque ils exorcisent un possédé, une des questions qu'ils vont devoir poser après le rituel, c'est quel est ton nom ? Non pas au possédé, le nom du démon. Et les démons, les exorcistes nous disaient que lorsque le démon finissait par donner son nom, la moitié du travail était fait. Il était beaucoup plus facile d'expulser un démon d'un pauvre homme, d'une pauvre âme, quand l'exorciste connaissait le nom du démon. Et il fallait parfois bien du travail, bien des tracas, des prières et des pénitences terribles pour obtenir ce nom du démon, parce que le démon ne voulait jamais donner son nom, parce qu'il savait très bien qu'une fois que son nom aurait été divulgué à l'exorciste, l'exorciste aurait plus de pouvoir pour l'expulser. C'est un grand malheur d'ailleurs aujourd'hui, il y a deux grands malheurs. D'abord, c'est que l'exorciste, il y en a de moins en moins, très très peu. Il y avait avant encore une fois un exorciste dans chaque diocèse, maintenant ça n'existe plus. Il n'y a pratiquement plus d'exorcistes. Et dans l'église de Vatican II, ils ont même changé le rituel des exorcismes. Ce qui fait que le nouveau rituel a beaucoup moins de force parce qu'ils ont modifié les exorcismes traditionnels de l'église. Alors ce mot légion représentait un groupe de 6666 soldats. On voit ici que le démon est bien le singe de Dieu puisque 666 est le signe de la bête de l'Apocalypse. C'est le signe du démon. Bon, saint Augustin explique pourquoi, j'ai déjà dû l'expliquer dans d'autres parties de ce cours, mais je répète pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, 7, c'est le principe de la perfection, la totalité. Donc 6, c'est 7 moins 1, et c'est le principe de l'imperfection. Le chiffre 3, au contraire, est le signe de la totalité. Donc 3, 6, 6, 6, 6, donc 3 signes 6, 3 chiffres 6 représentent la totalité de l'imperfection. C'est donc le signe de l'Antéchrist. Il imite Dieu, donc le démon, qui est le seigneur des armées, c'est-à-dire des anges. Le démon se fait appeler Légion parce qu'il conduit ses nombreux compagnons en ligne de bataille pour se battre contre Dieu et ses fidèles soldats. C'est pour cela que la Sainte Vierge, est avec le pied sur le diable, elle agit comme un chef militaire, littéralement. Elle est forte comme une armée rangée en bataille parce que nous avons en face de nous des légions d'anges. Et s'il y a 6666 démons dans une seule légion, vous pouvez imaginer combien de démons nous avons devant nous. Si nous voyions le nombre de démons qui sont autour de nous, je pense que nous serions complètement affolés. Surtout pour les gens qui vivent, qui essaient de vivre en état de grâce. Le démon s'occupe très peu des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou. Le démon s'occupe pratiquement pas des gens qui vivent dans les péchés contre nature, parce que le péché contre nature déjà donne l'âme de la personne au démon. Donc le démon fait ce qu'il veut avec cette âme. Lorsqu'une âme vit dans le péché mortel, le démon n'a presque rien à faire. Ça peut de temps en temps donner un ordre pour dire à la personne, attention, un enfer, là c'est la troisième porte à droite, ne trompez pas de porte, et les gens y vont. Au contraire, lorsqu'une personne vit en état de grâce, se confesse régulièrement, prie, fait pénitence, vous devenez tout de suite un gibier de choix pour le démon, parce que le démon va tout faire dans ces cas-là pour s'occuper de vous. Lorsque le démon a pu faire tomber un prêtre, lorsque le démon a pu faire tomber un catholique pratiquant, c'est une plus grande victoire pour lui que s'il avait envoyé en enfer 10 000 païens. Voyez. Donc faire attention, aujourd'hui plus que jamais, le démon a une force terrible dans les âmes, précisément parce que les gens ne prient plus. Donc ayez ces trois protections dont je parle souvent en sermon, ces trois protections, le chapelet, la médaille miraculeuse et le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Trois armures extraordinaires. Donc, ayez ces armures, gardez votre chapelet. S'il y a une résolution que vous devez prendre pour cette année nouvelle 2020 qui commence maintenant, eh bien, prenez la résolution de la résolution de la du chapelet tous les jours. Et vous serez aussi beaucoup plus fort pour lutter contre les tentations. Verset 20 à 29, du chapitre 5 de saint Marc. Jésus s'en alla et se mit à publier dans l'homme s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Jésus ayant de nouveau gagné l'autre rive sur la barque, une foule nombreuse s'assembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de synagogue nommé Jaïr, qui le voyant se jeta à ses pieds, et le suppliant avec instance en disant « Ma fille est à l'extrémité, venez, imposez-lui les mains afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Et Jésus alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alors une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, qui avait dépensé tout son bien et n'en avait éprouvé aucun soulagement, mais s'en trouvait encore plus mal, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, son vêtement, je serai guérie. » Et aussitôt, la source du sang qu'elle perdait fut séchée, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa maladie. Comme vous devez le savoir, notre Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, a fait 3 résurrections des morts. On va expliquer ici l'une d'entre elles. Donc notre Seigneur va ressusciter d'entre les morts la fille du chef de la synagogue, qui s'appelait Jaïr. Et au verset suivant, verset 35, on verra que serviteurs du chef de la synagogue vont venir lui dire « Votre fille est morte, donc n'importunez pas davantage le maître. » Il y a un autre cas de résurrection qui est la résurrection de Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine. Et le troisième cas, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et chaque cas, évidemment, est un petit peu différent. J'ai déjà souvent expliqué ça. On y reviendra dans les parties de l'évangile qui correspondent à ces passages-là. Donc, ces mourants, ces personnes qui sont mortes, représentent les gens qui sont complètement sous le pouvoir du démon. La mort représente le péché. Lorsque je tombe dans le péché mortel, mon âme est morte. C'est pour ça qu'on appelle un tel péché un péché mortel. Il y a différents degrés. Il peut y avoir le premier degré, c'est justement ce degré-là qui est expliqué ici, la fille du chef de la synagogue, donc, qui est encore dans sa chambre, elle vient de mourir, est encore dans la chambre, elle vient de mourir. Notre Seigneur va la ressusciter. Le fils de la veuve de Jaïr, il est mort, mais il est déjà dans le cercueil est en train d'être porté au cimetière par 4 porteurs. Notre Seigneur va aussi le guérir. Et enfin, Saint Lazare, lui, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Notre Seigneur va aussi le guérir. Cela représente les différents types de péchés. D'abord le péché mortel, puisqu'il y a mort physique, donc il y a péché mortel. Cela représente un péché mortel et pas un péché véniel. Un péché mortel de fragilité. Deuxième cas, c'est le péché mortel qui est plus répété d'habitude. Et troisième cas, c'est le péché mortel qui est devenu un vice. Et dans les 3 cas, notre Seigneur va ressusciter ces personnes d'entre les morts pour bien montrer qu'il est maître de la vie et de la mort. Il n'est pas simplement maître de la vie et de la mort physique, il est aussi maître de la vie et de la mort spirituelle. Alors voyons les explications données par les pères. Au haut de la page 32. Alors, le Seigneur avait demandé « Qui m'a touché ?» C'est-à-dire par les sentiments du cœur et par la foi. Car cette foule qui me presse de toutes parts ne me touche pas véritablement parce qu'elle ne s'approche de moi ni par l'esprit ni par la foi. Donc il était comprimé par toute une série, il y avait toute une foule autour de lui. Il est dit qu'il y avait au verset 27 une foule. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Mais cette foule le touche sans le toucher, c'est-à-dire elle le touche, mais par pure, je dirais, curiosité naturelle. Et donc, Jésus n'a aucune influence sur ces gens-là, parce qu'ils ne cherchent pas vraiment Dieu. Au contraire, cette hémorroïs, cette femme qui, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, cette vieille personne, qui avait beaucoup souffert. Donc, elle s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, elle le touche, mais elle le touche par amour. Elle fait un acte de foi, elle sait qu'il est Dieu et qu'il va pouvoir la guérir. Si je puis seulement toucher son vêtement, dit-elle, je serai guérie. Et aussitôt, la source du sang qu'elle perdait fut séchée, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa maladie. Donc les pères de l'Église font bien remarquer, c'est pas suffisant de toucher notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut toucher son sacré cœur par l'amour de notre cœur. Unir notre cœur au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ avec esprit de foi, esprit de charité. Notre Seigneur Jésus-Christ va l'appeler sa fille. Il l'appelle sa fille parce que c'est la foi qui a été le principe de sa guérison. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous fait enfants de Dieu. C'est au verset 34. « Ma fille, votre foi vous a sauvé. Allez en paix et soyez guéris de votre mal. » Et notre Seigneur va faire le miracle. Vous voyez, et nous sommes faits enfants de Dieu par le baptême. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Plus que jamais aujourd'hui, il faut rappeler que le baptême seul fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu par le baptême. En ces jours, au Bergoglio scandalise de plus en plus là. Les gens niant l'efficacité du baptême, puisqu'il a dit plusieurs fois que les musulmans étaient des enfants de Dieu, donc les musulmans sont enfants de Dieu comme s'ils étaient baptisés. Or, les musulmans ne sont pas baptisés, donc ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Il y a tellement de confusion dans les âmes à cause de cela qu'il faut, nous au contraire, nous accrocher à la foi catholique. Seul le baptême fait de nous des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut baptiser les bébés le plus vite possible. N'attendez pas, comme le font beaucoup trop de catholiques, des semaines et des semaines avant de baptiser votre enfant. Et même si les parrains et marraines ne peuvent pas venir immédiatement, prenez quelqu'un d'autre qui agiront par proxy, qui représenteront légalement le parrain ou la marraine qui sont absents. N'attendez pas. Une grande joie en tant que prêtre, c'était de pouvoir baptiser les nouveau-nés presque immédiatement. Il m'est arrivé, c'est assez rare, mais je me suis tombé plusieurs fois sur des gens qui ont vraiment une foi très forte, et qui me demandait le baptême presque immédiatement. La maman venait d'accoucher à la maison ou à l'hôpital, et tout de suite le papa me téléphonait, « Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez venir baptiser notre nouveau bébé ? Ma femme vient d'accoucher il y a une heure, mais le bébé va bien, mais est-ce que vous pouvez venir le baptiser ?» Et que ce soit à la maison, que ce soit à la chapelle de l'hôpital quand c'était possible, ou même dans la chambre de l'hôpital, j'allais baptiser tout de suite. Bon, certes, ça supprime un peu la solennité extérieure du baptême, mais ça permettait de baptiser les enfants tout de suite. N'oubliez pas qu'avant, dans les siècles de foi, un bébé non baptisé ne restait pas une seule seconde seul. Parce que le curé ne pouvait pas baptiser immédiatement le bébé. Quelqu'un restait près du bébé jour et nuit, avec un verre d'eau à la main, tout proche, pour baptiser l'enfant en cas de problème. Pour être sûr que l'enfant ne meurt pas sans baptême. Le plus grand des malheurs qui arrivait, c'était de mourir sans baptême. Vous voyez. Donc c'est la foi qui nous est donnée par le baptême et la charité qui font de nous des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu parce que nous avons une âme. Ça, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, y compris les musulmans. Mais la ressemblance de Dieu, ça, c'est la grâce sanctifiante. C'est le baptême qui donne ça. Et tous les hommes ne sont pas créés à la ressemblance de Dieu. L'image, oui, mais pas la ressemblance. Alors, Saint Jérôme, dans le sens mystique, propos de Jaïr, donc le chef de la synagogue, qui vient à Jésus après la guérison de cette femme. Il représente le peuple d'Israël qui sera sauvé lorsque la plénitude des nations sera entrée dans l'Église. Là, c'est un peu un mystère. Il est très difficile de comprendre ce texte de Saint Paul qu'on trouve dans Saint Paul aux Romains. Qu'est-ce que ça veut dire que un reste du peuple d'Israël sera sauvé? Donc, c'est l'enseignement de l'Église qu'à la fin des temps, un des signes de la fin des temps sera la conversion d'un reste du peuple juif. Et même la conversion du peuple juif en lui-même. Alors, est-ce que tout le peuple juif va se convertir à la fin des temps, ou simplement une partie d'entre eux? Ça, on ne sait pas exactement, ce n'est pas clair chez les pères de l'Église, mais il y aura cette conversion, au moins d'après saint Paul, la reste du peuple juif. Le nom de Jaïr, donc, représente l'illumination, celui qui illumine, celui qui est illuminé. Il figure donc le peuple juif qui, sorti des ombres de la lettre, est inondé des lumières de l'Esprit Saint, se prosterne aux pieds de Jésus-Christ, c'est-à-dire s'humilie devant l'incarnation du Verbe, et le prie de rendre la vie à sa fille, car celui qui a la vie en lui-même cherche à communiquer la vie aux autres. Donc, en se prosternant aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, en cherchant littéralement à embrasser ses pieds, Jaïr, le chef de la synagogue, va faire un acte de foi en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité jointe à la divinité. On ne va pas demander à un simple homme de venir ressusciter sa fille. Si on se précipite aux pieds d'une personne comme notre Seigneur Jésus-Christ, en lui demandant de ressusciter notre fille, sa fille qui est morte, c'est parce qu'on croit que cet homme qui est devant moi est à la fois homme et Dieu. Donc c'est un acte de foi extraordinaire de Jaïr. Jaïr, ce chef de la synagogue, donc fait profession du mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation que nous fêtons en ce moment avec la fête de Noël. Vous voyez ? L'incarnation, c'est ça. Le premier résultat de l'incarnation, c'est la fête de Noël, le 25 décembre. Le deuxième résultat de l'incarnation, c'est la passion, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint au Golgotha. Le catholique, le chrétien, c'est quelqu'un qui croit en la double nature entre Seigneur Jésus-Christ. Donc, concernant notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, il y a deux hérésies qui vont s'affronter, d'une certaine façon. Il y a ceux qui poussent tellement sur l'humanité notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils en viennent à oublier sa divinité, et il y a ceux qui poussent tellement sur la divinité qu'ils en viennent à oublier son humanité. Alors ceux qui oublient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ben, c'est les Ariens, Arius, qui considéraient que notre Seigneur Jésus-Christ était la première des créatures, mais qui n'était que créature. Puis ceux qui ne voient que la divinité, qui oublient son humanité, ils ont fini par nier la véracité de la passion, et c'est les docétistes. Donc tous ceux qui niaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme. Et donc, je dirais, en fonction des vicissitudes de notre vie, on a le droit de s'accrocher davantage à l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ ou de s'accrocher davantage à la divinité triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Il faut faire un acte d'adoration dans les deux. Il est homme et Dieu. Pour cela que les rois mages, on a fêté dans quelques jours l'épiphanie, donc l'arrivée des rois mages, ils vont offrir l'or, l'encens et la myrrhe. La myrrhe, c'est parce qu'il est homme. La myrrhe était un parfum, une résine qui était utilisée pour embaumer les cadavres. Et donc, la myrrhe, c'était pour représenter l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ représentait aussi la mortification de la chair. Mais au contraire, l'encens qui est utilisé pendant la messe qui est mise à brûler sur un charbon ardent représente par cette belle fumée, cette fumée odoriférante qui s'élève vers le plafond de la chapelle représente la prière. Donc la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ est roi, Dieu et homme. Et comme il est roi, les rois mages vont également donner à notre Seigneur Jésus-Christ l'or royal. D'accord ? Donc cette femme qui est atteinte d'une perte de sang que le Seigneur guérit représente l'Église. C'est en haut de la page 32. Représente l'Église catholique qui a été formée des nations réunies, car cette perte de sang peut très bien s'entendre des souillures du culte des idoles et de tous les crimes qui ont pour objet les plaisirs de la chair et du sang. Et on voit la même image, de même que notre Seigneur Jésus-Christ va comparer les porcs dans lesquels, ces 2000 porcs qui étaient à côté de l'homme qui était possédé par les démons, donc les démons vont rentrer dans les pourceaux. Et le pourceau qui aime la fange représente le démon. De la même façon, la souillure corporelle provoquée par ces pertes de sang chez cette femme malade représente la souillure du péché et surtout du péché d'idolâtrie. Vous voyez, souillure du culte des idoles, disent les pères, et tous les crimes qui ont pour objet les plaisirs de la chair et du sang. On voit très bien ici les deux concupiscences, la concupiscence de la chair et la concupiscence de l'orgueil. L'idolâtrie, c'est ça, l'adoration d'un faux Dieu. On peut encore, dans cet hémorroïsme, voir la nature humaine, car le péché, en nous donnant la mort, voulait, pour ainsi dire, en répandant le sang de notre âme, coulait, pour ainsi dire, en répandant le sang de notre âme. Un grand nombre de médecins, c'est-à-dire les sages de ce monde, avaient inutilement cherché à guérir cette femme. Pourquoi ils n'avaient pas pu guérir cette femme? Parce que cette femme était finalement malade dans son âme. Et donc elle va chercher à toucher notre Seigneur Jésus-Christ. Si je puis seulement toucher son vêtement, pensait-elle, je serai guérie. Et elle a raison. Parce que dès qu'elle va toucher notre Seigneur Jésus-Christ, elle sentit que la source du sang qu'elle perdait fut séchée. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa maladie. Donc la loi et les prophètes avaient également été impuissants, mais dès qu'elle a touché le bord du vêtement, c'est-à-dire la chair de Jésus-Christ, elle est aussitôt guérie, car toucher le bord du vêtement du Sauveur, c'est croire au Fils de Dieu incarné. On voit la même image dans l'histoire du bon Samaritain. Le bon Samaritain, donc cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui tombe au milieu de brigands, qui est laissé à demi-mort sur le côté de la route, et puis voilà un Lévite de l'Ancien Testament qui passe et qui fait rien, parce qu'il ne peut rien faire. Et puis il y a un prêtre de l'Ancien Testament qui passe aussi et qui change de côté pour rien faire. Il ne veut pas s'occuper de cette personne qui est moribonde. Et c'est le bon Samaritain, c'est-à-dire le Christ lui-même, qui va faire quelque chose. Parce que le Christ lui-même seul peut guérir les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et toutes ces maladies, les maladies qui mènent à la mort, et même les maladies qui maintiennent dans une infirmité pénible, comme cette femme, donc, qui était avec une perte de sang depuis 12 ans, une longue période de temps, eh bien, cette perte de sang, justement, représente, disent les pères, les souillures du culte des idoles. Donc, ça représentait le péché en général. Et si elle fait un acte de foi en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire cette humanité souffrante, elle va être guérie par l'acte de foi. Vous voyez ? Parce que toucher le bord du vêtement, c'est toucher l'incarnation. On voit très bien avec les rois mages dans la crèche de Bethléem pour Noël. Ils vont certainement demander à toucher l'enfant Jésus, à bercer l'enfant Jésus. Et parler, pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui parlent et qui ont des enfants, des petits-enfants, parlez-leur beaucoup de Noël. Expliquez-leur que cet enfant nouveau-né, qui est emmailloté de l'ange, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver. D'où l'importance pour tous les catholiques d'avoir de belles crèches chez eux. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui font cet effort d'avoir une belle crèche. Moi, j'avoue que j'étais très content. J'ai trouvé il y a quelques jours à Emmaüs, à Albi, je suis tombé sur une crèche ancienne. Avec des personnages, il y en avait 9, il n'y avait pas tout, mais il y avait 9 personnages. Une crèche ancienne, avec des personnages qui faisaient à peu près 25 cm de haut, avec un cadre en bois, et les mains, les pieds et le visage en plâtre, peints très soigneusement et habillés avec des véritables vêtements. Une petite merveille. Et la très sainte Vierge Marie est extraordinaire de délicatesse. Un visage d'une beauté ineffable. Et tous les vêtements ne sont pas faits cette fois-ci en vêtements. C'est le seul senton qui est différent dans la crèche que j'ai trouvée à Emmaüs. Les vêtements de la très sainte Vierge Marie sont faits en papier mâché. C'est rarissime. Parce que c'est très très fragile, évidemment, ça s'abîme très vite et on n'en trouve presque jamais. Et j'ai réussi à trouver ça à Emmaüs à un prix ridiculement bas. J'ai essayé quand j'étais à Bordeaux d'avoir une crèche avec des personnages habillés comme ça. J'ai eu énormément de difficultés de trouver encore un centenier qui en faisait dans le sud de la France. J'ai fini par trouver un vieux ménage qui en faisait encore et j'ai acheté pratiquement leur dernière pièce parce qu'ils m'ont dit qu'ils partaient à la retraite et que personne ne reprenait le flambeau. Ce sont donc des arts malheureusement qui vont disparaître. Et c'est extraordinaire, et j'ai placé ça dans ma petite chapelle, un petit peu partout, parce que j'ai un petit oratoire qui est tout petit. J'ai une place que pour une dizaine de personnes, donc je n'ai pas vraiment la place pour mettre une crèche, et donc j'ai mis les petits différents personnages, avec le boulangère, la poissonnière, le mitron, il y a un peu tout le monde. Et je les ai mis au pied des différentes statues qui sont à côté de l'autel. Et on est parti sur l'autel, au fond de l'autel, avec le regard tourné vers l'endroit à côté de la Sainte Vierge, la grande statue de la Sainte Vierge que j'ai dans l'oratoire, où j'ai mis Saint Joseph, un ange adorateur, et la Sainte Vierge Marie. Et tous les regards sont tournés vers la statue de la Sainte Vierge Marie. Et j'ai détaché le faire sans abîmer le papier mâché, détaché l'enfant Jésus qui était dans les mains de la Sainte Vierge, parce qu'il n'est pas encore né, au moment où j'ai mis la crèche. Et j'ai détaché cet enfant Jésus, un petit poupon, il n'y a que la tête qu'on voit, enveloppé de papier mâché de façon extraordinaire, et je déposerai le jour de Noël cet enfant nouveau-né dans les bras de la Sainte Vierge Marie avant la messe de minuit, puisque j'enregistre ce cours le 23 décembre 2019. Donc, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ insiste sur la foi des gens. Il va guérir les gens qui ont la foi, qui cherchent la foi. Croyez-vous que je puisse faire ce miracle ? Oui, je crois. Je crois, Seigneur, m'augmenter ma foi. J'espère m'augmenter mon espérance. Je vous aime, mais augmenter ma charité. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va dire, vos péchés sont pardonnés. Par contre, lorsqu'il voit qu'il n'y a pas la foi, ce fut le cas dans le premier exemple, vous voyez, ces gens, ces Géraséniens donc, qui viennent, qui trouvent le possédé qui a été guéri, les pourceaux qui se sont précipités dans la mer, qui sont tous morts noyés, se mirent à prier Jésus de sortir de leur territoire. Eux n'avaient pas la foi. Eux ne cherchaient pas la foi. Alors ils perdent notre Seigneur Jésus-Christ, ils perdent la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, Jaïr, qui cherche Dieu, va obtenir le miracle. Cet hémorroïs, qui a cette perte de sang depuis 2 ans, qui cherche notre Seigneur Jésus-Christ, va également être miraculé. Parce que toucher les bords des vêtements du Seigneur, c'est croire au Fils de Dieu incarné. Un homme, un corps humain porte des vêtements. Un ange n'a pas besoin de vêtements parce qu'il est un pur esprit. Donc, l'insistance sur les vêtements du Seigneur insiste indirectement sur l'existence de l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand mystère qu'il faut bien comprendre pendant la méditation de Noël. Il faut faire méditer les enfants. Il y a deux choses que vous pouvez utiliser pour faire comprendre la foi catholique aux enfants, surtout aux enfants tout petits, 3-4 ans. Mettez-les devant la crèche de Noël d'abord. Et vous prenez l'enfant Jésus, il faut que vous ayez une belle... J'ai vu ça souvent dans certaines familles, il n'y a pas forcément une crèche complète, mais au moins un magnifique enfant Jésus en cire, parfois de taille réelle, la taille d'un nourrisson, enveloppé de l'ange. J'ai vu des enfants en Jésus en cire comme ça, extraordinaire de beauté et de noblesse. Et il faut mettre ça entre les mains de l'enfant, montrer à l'enfant, voilà. Pourquoi est-ce que Jésus qui est Dieu au ciel, pourquoi est-ce qu'il a voulu devenir homme ? Il faut faire comprendre à l'enfant Jésus, à l'enfant, que notre Seigneur Jésus-Christ vient dans la grotte de Bethléem. Il est adoré par les anges, adoré par les bergers, adoré par les rois mages. Il faut qu'il soit adoré par tout le monde, et lui par cet enfant aussi y compris. Et pourquoi est-ce qu'il devient homme ? Et à ce moment-là, on présente la deuxième pièce à présenter, c'est le crucifix, un beau crucifix. Et voilà pourquoi il a été enveloppé de l'ange. Voilà pourquoi il est né dans la crèche. Il est né dans la crèche pour mourir sur la croix. Parce que Dieu ne peut pas mourir, parce que Dieu est éternel. Donc Jésus devient homme pour mourir sur la croix. L'incarnation mène à la rédemption. Donc les pères de l'Église font remarquer que cette femme, hémorroïs, s'approche de Jésus par derrière et touche son vêtement en secret. Et voilà l'explication des pères qui est splendide. L'Église, formée des nations, s'approche de Jésus par derrière, car elle n'a pas vu le Seigneur dans sa chair. Et ce n'est qu'après l'accomplissement des mystères de l'incarnation qu'elle est parvenue à la foi en Jésus-Christ. Et en méritant d'être guérie de ses péchés par la participation au sacrement du Sauveur, elle a comme tari par le contact de ses vêtements la source de sang qui s'est coulée. En touchant le bord du vêtement, on fait un acte de foi en l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur va pouvoir pénétrer dans notre âme, et par la pénétration de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, c'est évidemment le péché qui disparaît. Or, notre Seigneur Jésus-Christ regarde tout autour pour voir celle qu'il a touchée, parce qu'il juge digne des regards de sa miséricorde tous ceux qui méritent la grâce du salut. Dieu ne refuse jamais, jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Et c'est le cas de cette femme, elle a la foi, elle a l'humilité. Et deux conditions pour avoir la charité. La foi nécessaire par le baptême, l'humilité nécessaire pour comprendre qu'on ne peut rien faire sans Dieu, à ce moment-là, Dieu donne la charité. Avançons. En bas de la page 32, versets 30 à 34 du chapitre 5 de saint Marc. Aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna vers la foule et dit : « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui disaient : « Vous voyez la foule qui vous a pressé et vous dites : « Qui m'a touché ?» Il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Mais la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit : « Ma fille, votre foi vous a sauvée. Allez en paix, soyez guérie de votre mal. » Et on voit la mansuétude, la miséricorde, la douceur, la charité de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme avait encore une fois la foi et l'humilité. Mais il a fallu, pour qu'elle soit guérie, la foi et l'humilité n'ont pas suffi. Il fallait rajouter la charité. Pour que le péché soit exclu d'une âme, péché mortel quitte une âme, la foi, la charité, la foi et l'humilité sont nécessaires, mais ne suffisent pas. Il faut en plus la charité, soit par un acte de charité parfaite, soit par une confession avec une absolution valide. Et donc on voit bien, en touchant notre Seigneur Jésus-Christ, elle fait un acte d'amour, un acte de foi. Elle croit qu'elle va toucher le corps d'un Dieu, le corps d'une personne qui n'est pas seulement homme, mais qui est aussi Dieu. Elle fait donc, elle rajoute un acte de charité à son acte de foi et à son acte d'humilité, pour ça qu'elle le touche par derrière, discrètement, et cela suffit pour que notre Seigneur Jésus-Christ se retourne, la regarde, et lui dise : « Ma fille, votre foi vous a sauvée, allez en paix, soyez guérie de votre mal. » Voilà ce que j'ai trouvé dans les Pères. Cette femme renommée, donc cette hémorroïse, après avoir été guérie de sa perte de sang, érigea en mémoire de ce grand miracle une statue du Christ à Césarée de Philippe. Et à sa base pousse une herbe qui guérit tous les malades. Julien l'apostat fit tomber cette statue et la remplaça par une statue de lui-même. Mais sa statue orgueilleuse fut réduite en poussière par un éclair. Vous voyez comment Dieu manifeste sa puissance contre ceux qui ne veulent pas de lui. Alors, on peut se poser cette question que se posent les pères. Si ce simple contact avec le vêtement du Christ a pu provoquer un tel prodige, que dira-t-on du contact de l'âme avec la Sainte Eucharistie ? N'oubliez pas que cette âme a été guérie simplement parce qu'elle avait la foi, l'humilité, et qu'elle touche la frange, le bord du vêtement du Seigneur. Eh bien, nous, par la Sainte Communion, si nous approchons de la Sainte Communion avec la foi et l'humilité, nous allons recevoir et toucher de nos lèvres, de notre cœur, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Donc, on peut vraiment dire que la Sainte Communion renouvelle en nous le mystère de la Sainte Eucharistie. Nous sommes en haut de la page 33. Et les pères disent que Sainte Gorgoni, Sainte Catherine de Sienne et beaucoup d'autres furent ainsi guéris miraculeusement de graves maladies en touchant la Sainte Eucharistie. Alors saint Bède le Vénérable donne le sens anthropologique, le sens moral. Il explique que cette perte de sang, qui durait depuis 12 ans, représente les plaisirs de la chair, les plaisirs de la luxure et de la gourmandise. Donc le corps très pur de Christ guérit ceux qui reçoivent pieusement la Sainte Eucharistie. Donc il y a d'une part les choses sales, donc les plaisirs de la chair, les plaisirs qui nous mènent au mal, si vous voulez. Et d'autre part, il y a la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Sainte Eucharistie. Donc il ne faut pas oublier que pour se présenter devant la Sainte Eucharistie avec mérite, pouvoir utiliser les grâces de la Sainte Eucharistie, il faut avoir cette foi, il faut avoir cette humilité qu'avait cet hémorroïse. Et c'est le sens mystique. Quand une âme se relève du péché, elle ne doit pas seulement quitter la saleté de sa malice, mais elle doit aussi avancer dans les bonnes œuvres. Avancer dans les bonnes œuvres. En voyant les derniers versets de ce chapitre 5, versets 35 et 43. Comme il parlait encore, survinrent des gens du chef de la synagogue qui dirent « Votre fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, ayant entendu cette parole, dit au chef de la synagogue « Ne craignez point, croyez seulement. » Il ne permit à personne de le suivre si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue et Jésus voit le tumulte et des personnes qui pleuraient poussaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés, pleurez-vous ? La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Ils se moquaient de lui. Mais lui, ayant fait sortir tout le monde, sauf le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, il entre au lieu où la jeune fille était couchée. Et prenant la main de la jeune fille, il lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, je vous l'ordonne, levez-vous ». Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent frappés d'une grande stupeur. Il leur ordonna fortement que personne ne le sût, et il dit de donner à manger à la jeune fille. Miracle extraordinaire. Notez que, là encore une fois, on voit très bien l'inégalité qui existe constamment dans la création de Dieu. Il ne prend pas avec lui tous les apôtres, il en prend 3, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Les mêmes qu'il prendra au sommet du Tabor, les mêmes qu'il prendra avec lui dans le jardin de Gethsémani à la Passion. Saint-Pierre parce qu'il sera premier pape, Saint-Jacques premier martyr, et Saint-Jean l'unique apôtre qui n'avait pas été marié. L'apôtre vierge, l'apôtre que Jésus aimait. Il n'y a pas d'égalité entre les apôtres. Et pour arriver à maintenir, à faire entrer la foi dans les âmes des révoltés qui viennent parfois à nous, la première des choses, à mon avis, à faire, c'est de la faire comprendre, de la faire sortir de la tête une erreur qu'ils ont, mais ancrée très profondément. Ils considèrent que toute forme d'inégalité est toujours une injustice. Et comme l'inégalité partout dans le monde créé par Dieu, eh bien, s'ils n'ont pas compris ça, ils rejettent notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a créé des âmes inégales. Il n'y a pas deux âmes identiques. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des blancs, il y a des grands, il y a des gros, il y a des petits, il y a des maigres, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des gens de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, chaque âme est différente. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Et donc il va aussi une chose importante, on voit qu'après la résurrection, il ressuscite cette jeune fille. Je vous l'ordonne, levez-vous, et il va rendre la jeune fille à ses parents. Et ensuite, il faut bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas que s'occuper des âmes, il s'occupe aussi des corps. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. La jeune fille n'est pas mangée peut-être depuis plusieurs heures, surtout qu'elle était morte en plus, donc et tout ce temps-là. Et les gens qui sont là, les parents, sont tellement stupéfaits de ce miracle, cette résurrection extraordinaire, eh bien qu'ils ne pensent même pas à la nourrir. Alors notre Seigneur leur rappelle, c'est leur devoir, donner à manger à cette jeune fille. Et c'est sûr que toute la maison du fils du chef de la synagogue a cru en notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. L'enseignement de Saint Bède le Vénérable. Cette jeune fille était morte en effet pour les hommes qui ne pouvaient la ressusciter, mais elle dormait aux yeux de Dieu dans le sein duquel son âme vivait d'une vie immortelle et dont la providence veillait sur sa chair qui reposait dans l'attente de la résurrection. Et c'est là qu'est venue chez les chrétiens la coutume d'appeler ceux qui dorment les morts dont la résurrection pour eux certaine. On voit ça dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. On parle de ceux qui dorment. Et ceux qui dorment, ce sont ceux qui dorment du sommeil de la mort. Et c'est un acte de foi, parce que celui qui dort, il peut se réveiller. Donc celui qui est dans le sommeil de la mort se réveillera à la résurrection. Et en fait, il vit déjà soit une vie de bonheur ineffable au ciel, soit une vie de malheur indicible en enfer, soit une vie de souffrance temporaire au purgatoire, soit une vie de bonheur naturel au limbe. C'est les quatre possibilités, le purgatoire, l'enfer, le paradis ou les limbes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans le sens allégorique, cette fille du chef de la synagogue dont on vient annoncer la mort, au moment où cette femme était guérie d'une perte de sang, est la figure de la synagogue, qui lorsque l'Église formée des nations est purifiée des souillures et des sévices, et reçoit le nom de fille à cause du mérite de sa foi, succombe victime de sa perfidie et de son envie. De sa perfidie parce qu'elle a refusé de croire en Jésus-Christ, de sa jalousie, de son envie parce qu'elle a vu avec peine que l'Église embrassait la foi. Et c'est symbolisé par le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va d'abord guérir l'hémorroïs avant de guérir la fille du chef de la synagogue. Et donc, la guérison de la fille du chef de la synagogue, la fille de Jaïr, représente le passage des Juifs par la conversion à la religion catholique. Ce langage des serviteurs du chef de la synagogue est encore aujourd'hui sur les lèvres de ceux qui regardent la synagogue comme entièrement abandonnée de Dieu, sans espérance aucune de rétablissement, et qui pensent qu'il est inutile de demander à Dieu sa résurrection. Pourquoi importuner davantage le maître ? Votre fille est morte. Mais si le chef de la synagogue, c'est-à-dire si l'assemblée des docteurs de la loi avait embrassé la foi, la synagogue qui lui est soumise sera sauvée. Dieu peut convertir n'importe qui à condition qu'on cherche Dieu. Toute personne qui cherche Dieu avec humilité recevra la grâce de la conversion. Mais toute personne qui prétend avoir un droit à cette résurrection à cause de son orgueil n'aura rien du tout. Remarquez donc, disent les pères, que cette jeune fille est étendue morte au milieu de cette multitude qui pleure et pousse des cris parce que son incrédulité l'a fait perdre la joie qu'elle goûtait dans la présence du Seigneur. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu Dieu. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu la grâce sanctifiante. Je vais finir les derniers versets en haut de la page 34. Je m'excuse de vous garder un peu plus longtemps aujourd'hui, mais je voudrais terminer ce fichier des 5 premiers chapitres de Saint Marc, page 34. Le Sauveur ressuscite cette jeune fille en lui prenant la main, pour nous apprendre que la synagogue frappée de la mort ne peut ressusciter si les Juifs ne purifient d'abord leurs mains pleines de sang, du déicide. La guérison de l'hémorroïs et la résurrection de cette jeune fille sont la figure du salut du genre humain, pour lequel Dieu a établi cet ordre, que quelques-uns du peuple d'Israël embrasseraient d'abord la foi, puis la plénitude des nations entrerait dans l'Église, et ensuite tout Israël sera sauvé. Vous voyez, d'après certains pères, il y a une triple étape, si vous voulez. D'abord, quelques-uns du peuple d'Israël qui embrassent la foi catholique, ça c'est la conversion du début. N'oublions pas que tous les premiers apôtres, tous les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ sont pratiquement tous des Juifs convertis. Notre Seigneur Jésus-Christ est de race juive, Notre-Dame est de race juive, les apôtres sont de race juive. Sauf Saint Paul. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Parfois, il y a des imbéciles qui me disent « Oui, vous êtes antisémite. » Je dis « Je suis antisémite, bon. » Tous les jours, je vais descendre sur l'autel, sur le corporal. Un Dieu qui, dans son humanité, est de race juive. Je dis mon rosaire tous les jours en vénérant la très sainte Vierge Marie, qui est de race juive. Alors, venez pas me traiter d'antisémite. Cette jeune fille, âgée alors de 12 ans, cette femme avait souffert 12 ans entiers parce que les péchés des Juifs incrédules ne furent découverts que lorsque les premiers fidèles embrassèrent la foi. Selon ces paroles de l'Écriture, Abraham crut à la parole de Dieu et sa foi lui fut imputée en justice. Vous voyez, c'est pour ça que les deux miracles sont placés ensemble. La femme souffre depuis 12 ans et la jeune fille qui va être ressuscitée est ressuscitée à l'âge de 12 ans. Pour bien montrer encore une fois que donc cet hémorroïs qui ressuscite dans sa chair, c'est-à-dire qui est guéri de sa maladie, de son hémorragie, représente donc l'Église catholique. Et au contraire, la jeune fille de Jaïr, le chef de la synagogue, représente la synagogue. Celui qui est étendu sans vie dans l'intérieur. Attendez, j'oublie une partie, excusez-moi. Une citation de Saint Grégoire. Au sens moral, voilà ce que représente cette jeune fille ressuscitée dans la maison. Le jeune homme rendu à la vie hors des portes de la ville, ça c'est le fils de la veuve de Naïm, et Lazare rappelé du sépulcre où il était déjà depuis quatre jours. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, je réexplique les choses rapidement. Donc celui qui est attendu sans vie dans l'intérieur de la maison, c'est la fille de du chef de la synagogue, fille de Jaïr, c'est celui dont le péché reste encore caché. C'est un péché mortel, pour ça que la jeune fille est morte, un péché de pensée. Celui qu'on a conduit hors des portes de la ville, c'est le cas du fils de la veuve de Naïm, c'est le pécheur dont l'iniquité pousse la démence jusqu'à s'afficher en public. C'est un péché en action, mais qui est encore relativement privé. Enfin, troisième étape, celui enfin qui est comme comprimé sous la pierre du sépulcre, c'est le cas de Lazare, Saint Lazare, qui est depuis 4 jours dans le sépulcre, il figure le pécheur qui, à force de commettre le mal, se trouve comme accablé sous le poids de l'habitude. C'est le péché, péché public de vice. Eh bien, dans les trois cas, notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter et ces trois personnes. Il va ressusciter la fille du chef de la synagogue, il va ressusciter le fils de la veuve de Naïm, il va ressusciter le frère de Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine. Pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la gravité de nos péchés, si j'ai la foi et l'humilité, je pourrai obtenir la charité, obtenir le pardon de mes péchés. Remarquez encore, disent les pères, qu'à défaut de public, il faut un remède public. C'est pour cela que Lazare sort du tombeau aux yeux de tout le peuple qui est présent. Tandis que pour les fautes plus légères, elles n'ont besoin pour être effacées que d'une pénitence secrète. Ainsi, cette jeune fille étendue sur son lit ressuscite devant un petit nombre de témoins et encore leur recommande-t-on de ne rien dire. Vous voyez comment les pères voient justement le sens mystique caché de l'évangile dans tous ces petits détails qui pour nous semblent ne pas avoir de grande importance. Bon, Saint-Lazare ressuscite devant une grande foule, oui, bon, pourquoi? Et cette jeune fille, elle ressuscite que devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, et puis les parents de la jeune fille, et puis c'est tout. C'est pareil? Non, c'est pas pareil. Parce que la mort et la résurrection de la jeune fille, de la fille du chef de la synagogue, représentent justement les péchés privés. Donc, ils doivent être réparés de façon privée. Au contraire, Saint-Lazare, qui est au fond du tombeau depuis 4 jours, représente les péchés mortels de vice public. Et donc, ils doivent être réparés publiquement. Notre Seigneur donc chasse même dehors la foule qui remplissait la maison avant de ressusciter cette jeune fille. Parce qu'en effet, l'âme frappée de mort spirituelle ne peut revenir à la vie qu'après avoir chassé des parties les plus secrètes de son cœur la multitude des préoccupations du siècle. On ne peut pas à la fois adorer Dieu et Mammon. On ne peut pas adorer notre Seigneur Jésus-Christ et les trois concupiscences. Il faut faire un choix. Et donc, ces trois concupiscences sont représentées par toutes ces personnes qui font du bruit autour. Ils voient le tumulte, les personnes qui pleuraient, qui poussaient de grands cris. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va pousser tout ce monde dehors, pousse loin les concupiscences pour pouvoir justement s'occuper de la résurrection de la personne. Et la jeune fille, dès qu'elle est ressuscitée, se met à marcher, parce que l'âme qui sort de la mort du péché ne doit pas seulement se séparer des souillures de ses crimes, mais marcher dans la pratique des bonnes œuvres. Elle doit aussi se hâter de se nourrir du pain céleste, dire la parole divine et la participation du sacrement de l'autel. Donc, lorsque notre Seigneur fait remarquer qu'il faut donner à manger à cette jeune fille, cela représente justement les bonnes œuvres pratiques. De même qu'un corps ne peut pas fonctionner sans manger, de même la foi vive doit donner des œuvres pratiques. Il faut la foi et les œuvres de la foi. Voilà, bon, nous avons terminé avec ce chapitre 5 de Saint Marc. Excusez-moi de regarder un peu plus longtemps que d'habitude. La prochaine fois, Dieu aidant, bien, nous commencerons le deuxième fichier des chapitres 6 à 10 de Saint Marc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.